Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, quatrième cassette, deuxième face, page 99. Chapitre 12, thérapeutique. La thérapeutique, c'est une manière de soigner. Thérapeutique est ici au pluriel, car tu vas voir qu'on va employer plusieurs manières pour soigner Tom de sa soi-disant maladie. Si Tom avait cessé d'être obsédé par son secret, c'était parce qu'il avait un nouveau, un grave sujet de souci. Becky Thatcher ne venait plus à l'école. Pendant quelques jours, Tom s'était débattu contre son amour-propre et avait essayé de la chasser de ses préoccupations, mais sans y parvenir. Il se surprit à rôder la nuit autour de la maison de son père. Il était très malheureux. Elle était malade. Et si elle allait mourir? Cette idée l'affolait. Ah, il ne pensait plus à la guerre, il ne songeait plus à se faire pirate. La vie n'avait plus de charme, rien n'était plus que tristesse. Il ne touchait plus à son cerceau, son cerf-volant ne l'intéressait plus. Sa tante s'inquiéta de ce changement. Elle lui fit essayer toutes sortes de médicaments. Elle était de ces gens qui s'engouent pour toutes les spécialités, pour tous les traitements ultramodernes qui prétendent rendre ou améliorer la santé. C'était une manie qu'elle avait de longue date. Quand elle découvrait une nouveauté, elle n'avait de cesse qu'elle ne l'eût essayée, non pas sur elle, car elle n'était jamais malade, mais sur la première personne qui lui tombait sous la main. Elle était abonnée à tous les journaux de médecine des familles et autres attrape-nigauds phrénologiques. Elle se gargarisait de l'ignorance pompeuse dont ils étaient boursouflés. Toutes les absurdités qu'il contenait sur l'aération, la façon de se lever, la façon de se coucher, sur ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait boire, sur la durée quotidienne de l'exercice qu'il fallait prendre, la disposition d'esprit qu'il convenait d'adopter, le genre de vêtements qu'il fallait porter, tout cela était pour elle parole d'évangile. Et elle ne remarquait jamais que les conseils donnés dans le journal du mois contredisaient régulièrement ce que ce même journal avait donné le mois précédent. Sa droiture et sa bonne foi faisaient d'elle une proie tout indiquée. Elle collectionnait les revues charlatanesques et les médicaments charlatanesques. À cette époque, la mode était au traitement hydrothérapique, c'est-à-dire soigné par l'eau, des bains, des douches, des choses comme ça. Et le mauvais état de santé lui fournissait une occasion unique de l'expérimenter. Elle le fit se lever dès l'aube chaque matin. Dans le hangar à bois, elle le noyait sous un déluge d'eau froide. Pour le revigorer, elle le frictionnait jusqu'au sang avec une serviette râpeuse comme du papier de verre. Et pour lui faire reprendre connaissance, elle lui faisait ensuite des enveloppements mouillés et finalement l'enfouissait sous un paquet de couverture où le malheureux transpirait à rendre l'âme qui finissait par lui sortir par les pores, comme disait Tom. Pores, P-O-R-E-S, bien sûr, les petits trous qu'on a dans la peau, et par où sort la sueur. Malgré tout cela, Tom devenait de plus en plus mélancolique, de plus en plus pâle, de plus en plus déprimé. Tante Polly compléta alors le traitement par des bains chauds, des bains de siège, des douches et autres plongeons, ce qui n'empêchait pas Tom de demeurer triste comme un bonnet de nuit. Au traitement hydrothérapeutique vint alors s'adjoindre un régime amaigrissant aux gruaux d'avoine accompagné de vésicatoires. Elle calculait la capacité de Tom comme s'il s'était agi d'une urne dont elle faisait quotidiennement le plein à l'aide de remèdes aussi miraculeux que charlatanesques. À force de persécution, Tom avait fini par s'accoutumer au martyr, ce qui remplissait de consternation le cœur de la vieille dame. À tout prix, il lui fallait vaincre cette apathie. Elle venait précisément d'entendre pour la première fois parler d'un élixir reconstituant. Elle en commanda immédiatement de nombreuses bouteilles. Elle le goûta et son cœur déborda de reconnaissance envers l'inventeur. Ce n'était ni plus ni moins qu'une espèce de feu liquide. foin du traitement hydrothérapique et de tous ses compléments. L'élixir reconstituant avait désormais toute sa confiance. Elle en donna à Tom une cuillerée à café et épia anxieusement les résultats. Son inquiétude fut instantanément dissipée. La paix reprit possession de son âme. L'apathie était vaincue. Tom n'aurait pas pu montrer plus d'intérêt ni faire preuve de plus d'agitation si elle l'avait mis sur un bûcher. Il estimait en effet que le moment était venu de sortir de sa torpeur. Ce genre de vie n'était pas dépourvu d'un côté romanesque qui avait pu faire son affaire pendant quelque temps dans l'état d'abattement où il se trouvait. Mais il finissait par perdre en intérêt ce qu'il gagnait en abracadabrante diversité. Il réfléchit aux différentes possibilités qu'il avait d'y mettre bon ordre et finalement décida de manifester un enthousiasme sans bornes pour l'élixir reconstituant. Il en demandait si souvent que cela devenait assommant. Sa tante finit par lui dire de la laisser tranquille et de se servir lui-même. S'il s'était agi de Sid, aucun pressentiment ne serait venu altérer la joie de la bonne dame. Mais comme il s'agissait de Tom, elle surveilla la bouteille en cachette. Elle put constater que le niveau du médicament baissait, sans toutefois se douter qu'en réalité, Tom l'employait à soigner la santé d'une fente dans le parquet du salon. Un jour, Tom était précisément en train d'administrer au parquet sa dose quotidienne lorsque le chat jaune de sa tante s'approcha de lui en ronronnant et en guignant la bouteille d'un regard d'envie comme s'il demandait à en goûter. Si tu n'en veux pas, Pierrot, n'en demande pas, dit Tom. Pierrot insiste. Tu es bien sûr que tu en veux? Pierrot en était sûr. Puisque tu en demandes, je vais t'en donner, dit Tom, parce que je ne te refuse rien. Mais si tu n'aimes pas ça, ne t'en prends qu'à toi-même. Pierrot se déclara d'accord. Tom lui ouvrit la bouche et lui versa dans le gosier une bonne dose de l'élixir. Pierrot fit un bond de quelque 2 mètres de haut, poussa un miaulement terrible. Et se mit à tourner en rond dans la pièce, se cognant au meuble, renversant les pots de fleurs et mettant tout sans dessus-dessous. Il se dressa sur ses pattes de derrière et continua à faire le fou tout en poussant des miaulements frénétiques. Là où il passait, tout était cassé. La tante Polly arriva juste à temps pour le voir exécuter plusieurs sauts périlleux, pousser un dernier miaulement et sauter par la fenêtre en entraînant avec lui les quelques pots de fleurs encore intacts. Complètement ahurie, la vieille dame regardait par-dessus ses lunettes. Tom, lui, couché par terre, était malade de rire.
« Mais c'est épouvantable, Tom! Ce malheureux chat, qu'est-ce qu'il a?
Je ne sais pas, ma tante, dit Tom en se tenant les côtes.
Mais je n'ai jamais rien vu de pareil. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état?
Mais je n'en sais rien, ma tante. C'est toujours comme ça que font les chats quand ils s'amusent.
Pas possible.
La remarque était formulée d'un ton qui mit Tom sur ses gardes. Oui, enfin, c'est-à-dire, je crois.
Tu crois?
Oui. La vieille dame se baissa. Tom, mi-inquiet, mi-curieux, la regardait. Il ne comprit que trop tard la signification de ce geste. Telle une pièce à conviction, le manche de la cuillère émergeait de dessous le lit. Tante Polly ramassa la cuillère, la brandit au nez du coupable. Pris sur le fait, Tom baissa les yeux. Tante Polly le prit par l'oreille et lui donna sur la tête quelques bons coups de son dé à coudre.
Mais qu'est-ce qui t'a pris de jouer un tour pareil à cette pauvre bête?
J'ai eu pitié du chat. Il n'a pas de tante, lui.
Pas de tante, petit insolent. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
Ben, ça fait beaucoup parce que s'il avait eu une tante, c'est elle qui lui aurait donné sa drogue. C'est elle qui lui aurait mis le feu à l'estomac. Il n'y a pas de raison de ne pas faire aux bêtes ce qu'on fait aux gens.
La pauvre tante Polly éprouva tout à coup un remords de conscience. Le cas lui apparaissait sous un nouveau jour. Ce qui était cruel vis-à-vis d'un chat pouvait être cruel vis-à-vis d'un enfant. Un peu penaude, elle se radoucit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle mit la main sur la tête de Tom et lui dit
« Je l'ai fait dans une bonne intention, Tom, et au fond, ça t'a fait du bien. »
Tom la regarda bien en face, et avec une gravité que démentait une lueur de malice dans ses yeux, il répondit
« Je le sais bien que vous l'avez fait dans une bonne intention, ma tante. Moi aussi, je l'ai fait dans une bonne intention pour Pierrot. Vous voyez le bien que ça lui fait. Je ne l'ai jamais vu faire une telle vie que depuis qu'il... »
« Oh, tais-toi, Tom, tu m'exaspères. Tâche d'être sage et tu n'auras pas besoin de médicaments. »
Tom arriva à l'école bien avant l'heure de la classe. Fait extraordinaire, cela se produisait maintenant tous les jours. Et au lieu de jouer avec ses camarades, il restait à la porte, à l'entrée de la cour. Il se disait malade, et en vérité, il en avait l'air. Il essayait de donner le change en regardant à droite et à gauche, mais en réalité, il n'avait Dieu que pour la rue d'en face. Ce jour-là, il vit venir Jeff Thatcher, le frère de Becky. Le visage de Tom s'éclaira. Un instant, il regarda de tous ses yeux, puis, déçu, reprit son expression boudeuse. Quand Jeff arriva, Tom le questionna, lui tendit la perche pour parvenir à mettre la conversation sur Becky. Mais l'autre s'obstinait à ne pas comprendre. Tom reprit sa faction, sursautant dès qu'apparaissait une robe, désespéré dès qu'il se rendait compte que ce n'était pas celle qu'il attendait. Bientôt, il n'y eut plus de robe et Tom retomba dans une sombre mélancolie. Il entra dans la salle de classe encore vide et s'assit, broyant du noir. Tout à coup, alors qu'il n'y comptait plus, une nouvelle robe apparut. Tom ressentit un coup au cœur. Il sortit, et l'instant d'après, il était déchaîné. Il chantait, il criait à tue-tête, il bousculait ses camarades, franchissait la clôture d'un bond, risque de se casser bras et jambes, marchait sur ses mains, faisait toutes les singeries qui lui passaient par la tête, tout en ne perdant pas Becky des yeux pour voir si elle faisait attention à lui. Mais elle n'eut même pas l'air de s'apercevoir de sa présence. Était-ce vraisemblable? Il renouvela ses acrobaties tout près d'elle, se mit à pousser des cris de guerre, prit la casquette d'un de ses camarades, la lança sur le toit de l'école, se précipita sur un groupe d'enfants qu'il força à se disperser et finalement s'étala tout son long au pied de Becky qu'il faillit renverser. Becky, dédaigneuse, se détourna et Tom l'entendit qui disait « Pouh ! Il y a des gens qui se croient très forts et qui ne sont que des frimeurs. » Les joues en feu, Tom se releva tout penaud et jugea préférable de s'éclipser sans dire un mot. Chapitre 13. Les pirates. La décision de Tom était prise. Son moral était très bas. On l'oubliait, il n'avait plus d'amis, personne ne l'aimait plus. Quand on apprendrait jusqu'où le désespoir l'avait poussé, peut-être que certains se frapperaient la poitrine. Il avait fait son possible pour rester dans la bonne voie, mais on ne l'avait pas laissé faire. On avait voulu se débarrasser de lui, soit. De là à le rendre responsable
des conséquences que cela pouvait avoir, il n'y avait qu'un pas. Quel droit le pauvre abandonné avait-il de se plaindre? Le sort en était jeté. Il n'avait pas le choix. Il ferait sa carrière dans le crime. Tout en brodant sur ce thème, il descendait la rue des Prés. Loin, très loin, il entendit la cloche de l'école qui sonnait l'heure de la rentrée. À la pensée qu'il n'entendrait plus jamais ce son qu'il connaissait si bien, il eut le cœur gros. L'épreuve était dure, mais elle lui était imposée. Puisqu'il lui fallait affronter les périls d'une nouvelle vie, il se soumettait. Il pardonnait à ceux qui étaient la cause de son malheur, et il se mit à sangloter. Sur ces entrefaites, il se trouva face à face avec son ami de toujours, son bon vieux copain, Joe Harper. Joe, lui aussi, avait l'air sombre et énigmatique. Lui aussi paraissait nourrir de mystérieux desseins. Leurs deux âmes en peine vibraient à l'unisson. Tom, s'essuyant les yeux avec sa manche, commença à raconter à Joe qu'il avait pris la résolution de se soustraire au mauvais traitement qu'il subissait chez lui et de s'enfuir à tout jamais dans le vaste monde. Il termina en exprimant l'espoir que Joe, lui, ne l'oublierait pas. Par une coïncidence singulière, Joe se trouvait exactement dans le même cas. Il avait précisément l'intention de faire part à Tom de la même résolution, et c'est dans ce dessein qu'il le cherchait. Joe venait d'être fouetté par sa mère pour avoir absorbé un bol de crème auquel il n'avait pas touché et dont il ignorait jusqu'à l'existence. C'était un prétexte. Il était clair qu'elle en avait assez de lui et qu'elle souhaitait le voir partir. Tel étant le cas, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de s'en aller. Il lui souhaitait à sa mère d'être heureuse et de ne jamais regretter d'avoir laissé partir son pauvre enfant tout seul dans un monde insensible et cruel. Tout en déambulant mélancoliquement, les deux amis se jurèrent de se soutenir l'un l'autre, de se considérer comme des frères et de ne plus se séparer jusqu'à l'heure où la mort les délivrerait de leurs soucis. Ils se mirent à dresser des plans. Joe aurait voulu être ermite et vivre de vieilles croûtes de pain dans une caverne jusqu'à ce qu'il mourût de froid, de privation et de chagrin. Mais après avoir pris connaissance du point de vue de Tom, il admit volontiers qu'après tout, le crime avait son bon côté et que la carrière de pirate lui souriait assez. À 5 km en aval de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi avait à près de 2 km de large, il y avait une île longue et étroite, boisée, inhabitée, que l'on appelait l'île Jackson, J-A-C-K-S-O-N. Un banc de sable permettait de l'atteindre. Elle constituait donc un parfait lieu de rendez-vous pour des pirates. Elle était inhabitée. Elle se situait assez loin, du côté de la rive opposée, en face d'une épaisse forêt, aux abords de laquelle il n'y avait, pour ainsi dire, personne. Le choix de l'île Jackson ne souleva donc pas d'objection. Quant à définir ce qui devait faire l'objet de leur piraterie, ils n'y songèrent même pas. Il leur vint à l'idée que l'ami Huck serait le compagnon rêvé et ils se mirent à sa recherche. Huck ne demanda pas mieux que de se joindre à eux. Pour lui, il n'y avait pas de saut métier et toutes les carrières étaient bonnes. Les trois amis se séparèrent en convenant de se retrouver dans un endroit écarté, sur le bord de la rivière, à environ 3 km en amont du village, à leur heure favorite, minuit. Il y avait là un petit radeau dont on s'emparerait. Chacun devait se munir d'hameçons et de lignes, ainsi que de provisions qu'il se procurerait. Mieux vaut ne pas dire comment. Ça n'est pas pour rien qu'on est un hors-la-loi.
et avant la fin de l'après-midi, il n'avait pu s'empêcher de répandre dans le village le bruit que bientôt on verrait du nouveau. Quel nouveau ? Tous ceux à qui était révélé cet important secret avaient consigne de ne rien dire et d'attendre. Vers minuit, Tom arriva avec un jambon et diverses autres provisions. Il se posta dans un buisson sur une petite hauteur dominant le lieu du rendez-vous. Le ciel était clair, il n'y avait pas de vent. Le large fleuve avait l'air d'un océan au repos. Tom écouta. Aucun bruit. Alors, il fit entendre un léger sifflement. Du pied de l'escarpement, un sifflement lui répondit. Tom siffla deux fois. On lui répondit de la même façon. Quelqu'un demanda à voix basse.
Qui vive ? Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Antilles. Qui êtes-vous ? Huck Finn les mains rouges et Joe Harper la terreur des mers.
Cet homme qui avait trouvé ses surnoms dans ses livres favoris.
Bien, dit Tom, donnez-moi le mot de passe.
Ensemble, dans la nuit tombante, deux voix caverneuses répondirent
« Le sang !»
Alors Tom lança son jambon du haut de la butte et se laissa glisser en s'écorchant et en endommageant quelque peu ses vêtements. Il y avait bien le long du rivage un chemin praticable, mais à quoi bon être pirate si c'est pour faire comme tout le monde ? La terreur des mers avait apporté à grand-peine une énorme pièce de lard fumé. Fine les mains rouges s'était approprié une poêle à frire, du tabac en feuilles et des épis de maïs destinés à faire des pipes. Des trois pirates, il était le seul à fumer ou à chiquer. Le vengeur noir de la mer des Antilles déclara qu'on ne pouvait se mettre en route sans avoir de quoi faire du feu. C'était une sage précaution. À cette époque, on ne savait guère ce que c'était que des allumettes. Ils aperçurent à quelque distance sur un grand radeau un feu qui achevait de se consumer. Ils s'en approchèrent prudemment et s'emparèrent d'une grosse bûche et de quelques tisons. Ce fut là l'occasion d'une expédition solennelle menée dans toutes les règles de l'art. De temps en temps, l'un d'entre eux faisait « Chut !» et s'arrêtait brusquement, un doigt sur ses lèvres. L'autre caressait de la main le manche d'un poignard imaginaire. Le chef chuchotait des ordres. Si l'ennemi bougeait, la consigne était de lui enfoncer dans le corps la lame jusqu'à la garde, parce qu'il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Tous savaient très bien que les hommes du radeau étaient au village en train de boire au café, mais cela n'était pas une raison pour ne pas procéder de la manière classique des pirates qui savent leur métier. La bande s'installa sur le radeau. Tom commandait, Joe manœuvrait la rame avant et Huck la rame arrière. Les sourcils froncés, les bras croisés, Tom se tenait au milieu du navire et donnait ses ordres à voix basse.
Lofé, et droit dans le vent.
Bien, capitaine. Souquez ferme. Bien, capitaine.
Laissez filer un point à bâbord.
Bien, capitaine.
La tâche des enfants étant simplement de maintenir le radeau dans le chenal au milieu du fleuve, il ne s'agissait bien entendu que d'ordres de fantaisie ne répondant à aucune nécessité particulière.
« Quelles voiles sont larguées ?» demanda le capitaine.
« Les brasses, les huniers, le clin foc, capitaine.
Faites monter les voiles d'été, envoyez 6 hommes en haut, larguez le petit foc et que ça saute.
Bien, capitaine.
Larguez la voile d'été de perroquet, les écoutez les bas.
Vivement les gars,
bien capitaine.
Bâbord toutes, paramouillez, bâbord, bâbord.
Attention les gars, comme ça.
Bien capitaine.
Le radeau dérivait au-delà du milieu du fleuve. Les enfants le redressèrent et laissèrent filer les avirons. Les eaux étaient basses, le courant était donc très lent. Pendant les quelques 3 quarts d'heure qui suivirent, aucun propos ne fut échangé. le radeau passa en vue du village que quelques lumières permettaient de repérer et qui dormait paisiblement, sans se douter de l'importance des événements qui se déroulaient à peu de distance sur le fleuve. Au-delà du vaste plan d'eau dans lequel se miraient les crabes, le vengeur noir, les bras croisés, jetait un dernier regard sur le théâtre de ses joies et de ses souffrances passées. Ah ! Si elle avait pu le voir bravant la tempête, affrontant tous les périls d'un cœur intrépide, un sourire amer aux lèvres. Son imagination transportait l'île Jackson hors de la vue du village. C'était donc bien un dernier regard qu'il jetait, le cœur brisé mais satisfait. Les autres pirates, eux aussi, jetaient un dernier regard qui dura si longtemps qu'ils faillirent dépasser le banc de sable de l'île. Ils s'en aperçurent à temps et manœuvrèrent pour éviter le danger de justesse. Vers 2 heures du matin, le radeau s'échouait sur le banc de sable près de la pointe de l'île. Les pirates débarquèrent avec leur chargement. Dans le radeau, ils avaient trouvé une vieille voile dont ils firent une tente abri pour leurs provisions. Quant à eux, ils dormiraient à la belle étoile. Des pirates pouvaient-ils faire autrement ? Leur premier souci fut de faire un feu près d'un gros tronc d'arbre à la lisière des sombres profondeurs de la forêt. Pour leur repas du soir, ils firent frire un morceau de lard dans la poêle et mangèrent la moitié de leur provision de pain de maïs. Dans leur joie de festoyer en toute liberté dans une forêt vierge, sur une île inhabitée, inexplorée, loin des demeures des hommes, ils déclarèrent renoncer à tout jamais à la vie civilisée. Les flammes du foyer leur éclairaient le visage et projetaient une lueur rougeâtre sur les troncs des arbres environnants et les feuillages des broussailles. Fin de la deuxième face de la quatrième cassette, Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 109.